Ce soir, j'aimerais vous parler du cœur, du travail méditatif, c'est-à-dire de la pleine conscience. Sati en pali. La pleine conscience, c'est le point de départ du travail. Chacun peut le faire. Juste maintenant, chacun d'entre vous peut sentir son corps par terre. C'est ce qui nous accompagne tout au long du chemin. Lorsque je commence à avoir une présence au corps stable, alors la pleine conscience s'ouvre à d'autres. Au fond, le corps, c'est l'ancrage de concentration, et à partir du corps, je contemple l'esprit. Et je contemple toutes les émotions perturbatrices, mais aussi toutes les joies. Et une fois que j'ai trouvé comment m'ouvrir à l'expérience ici et maintenant, et que je suis un peu sortie de cette dichotomie j'aime, je veux, je garde, je n'aime pas, je ne veux pas, je rejette, alors le processus de purification se fait par rapport à ce qu'on peut appeler le karma. Il y a des gens avec qui les émotions perturbatrices émergent, des gens avec qui pas, je travaille le karma. Et le but, et c'est une seule chose, c'est d'en être libre. Au lieu que ma vie soit un enjeu perpétuel, ça devient un jeu sacré. Je joue ma vie. C'est-à-dire que je sais que je ne suis pas l'expérience. Je suis bien plus que l'expérience que je vis ici et maintenant. Et c'est aussi la pleine conscience, c'est aussi le point culminant de la pratique, c'est-à-dire qu'au fond, ce qu'on appelle le nirvana, ou l'éveil, ou la libération, ou les chrétiens appellent ça le un, ou Dieu, ou les musulmans, ce qui ne peut pas se nommer, hein, chacun a sa manière d'essayer de dire ce qui est au-delà. Au fond, au-delà du monde conditionné, c'est très semblable, en fait, c'est totalement similaire à l'instant, à une conscience complètement ouverte à l'instant tel qu'il est. Donc, ce chemin progressif que nous allons entreprendre, d'une certaine manière, c'est le chemin immédiat. Dans le sens où je n'ai que cette expérience ici et maintenant, il n'y a que ça. Alors ça fait toujours ça, plouf, ça, plouf, ça, plouf. Hein. Le début de cette soirée, elle est finie à jamais. Ce que je viens de vous dire, c'est fini à jamais. Donc, le fait d'avoir cette conscience-là, de cette vie et de cette mort de chaque instant, ça me permet de vivre ma vie en sachant que je vais mourir, et sans inquiétude, et sans avidité. Et ça, au fond, c'est l'expérience même de la pleine conscience, parce que les choses émergent et passent, vivent et meurent à chaque instant. Et j'aimerais vous lire dans le texte, parce que le Bouddha a parlé de quatre fondements de la présence. J'aime le lire dans le texte. En général, je me réfère peu au sutta, mais là, j'aimerais vous le dire. Bhikkhu, ce sont les moines. Voilà le chemin direct pour la purification des êtres, pour surmonter les pleurs et les lamentations, pour la disparition de la douleur physique et de la détresse mentale, pour la réalisation du chemin de vérité, du nirvana. Ce chemin direct, c'est la contemplation des quatre fondements de la présence. Et quels sont ces quatre fondements? Ici et maintenant, Bhikkhu, le disciple contemple son corps comme un corps, alerte, pleinement conscient et présent, ayant lâché le désir et l'aversion, l'attachement et la réaction. La conscience, il y a un corps, est établie, indépendante, ne s'attachant à rien au monde. Ça, c'est le premier fondement. Et le deuxième, ici et maintenant, bhikkhu, le disciple contemple ses ressentis comme des ressentis, alerte, pleinement conscient et présent, ayant lâché le désir et l'aversion, l'attachement et la réaction. La conscience, il y a des ressentis, est établie, indépendante, ne s'attachant à rien au monde. Vous pouvez le faire pendant que je vous le lis. Il y a des ressentis, sans cesse. Sans cesse, ils arrivent, ils passent. Ils arrivent, ils passent. Troisième fondement. Ici et maintenant, bhikkhu, le disciple contemple son esprit comme un esprit, alerte, pleinement conscient et présent, ayant lâché le désir et l'aversion, l'attachement et la réaction. La conscience, il y a un esprit, est établie, indépendante, ne s'attachant à rien au monde. Et le quatrième fondement, ici et maintenant, bhikkhu, le disciple contemple le monde intérieur et extérieur comme un monde, ayant pleinement alerte, pleinement conscient et présent, ayant lâché le désir et l'aversion, l'attachement et la réaction. La conscience, il y a un monde, est établie, indépendante, ne s'attachant à rien au monde. Ce qui est bon à retenir dans ce qu'on appelle le Satipatthana Sutta, c'est que, si vous avez remarqué, le quatrième fondement, qui est celui où je m'intéresse à l'extérieur, il vient à la fin. Tout le chemin de libération, c'est la connaissance du corps et de l'esprit dans lequel j'habite pour le temps de cette vie. Et le Bouddha dit, si vous connaissez le corps et l'esprit, vous connaissez le nirvana. Quand je connais mon fonctionnement, je connais le monde entier. Parce qu'au fond, la pensée est quelque chose de limité et elle est toujours l'expression du qui suis-je. Je crée le monde. Ça, on va le revoir. Mais c'est nous qui créons notre monde. Donc, ça, c'est un chemin ésotérique et pas exotérique. Je viens en moi et chaque fois que je mets mon importance à l'extérieur, je le remarque et je reviens en moi. J'habitue l'esprit à lâcher ce qui est du monde. Et c'est ce qui va me permettre à m'ouvrir au monde. Mais à m'ouvrir au monde, non pas d'un lieu d'inquiétude, et d'aveuglement, mais depuis d'une ouverture du cœur. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que le Bouddha commence par dire que c'est le chemin direct pour la purification des êtres, c'est la purification par le non-faire, rien à faire, que d'être ouvert à ce qui émerge ici et maintenant. C'est rien à faire, mais c'est un sacré entraînement quand même. Pour surmonter les pleurs et les lamentations, lorsque je n'ai pas cette confiance qu'il y a une purification par le non-faire, donc que d'une certaine manière, ce que j'ai ici et maintenant, même quand ce n'est pas ce que je veux, même quand c'est très douloureux, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour grandir. Quand il n'y a pas cette conscience-là, alors nous lamentons. Il y a les pleurs et les lamentations. Ça veut dire que, oh, mais quel pauvre je suis, oh, mais si seulement j'avais un meilleur job, un meilleur mari, des meilleurs enfants, un meilleur appart, un jardin. Moi, j'ai pas de jardin. Et nous nous mettons en prison par ces lamentations qui font qu'au fond, je ne me donne pas l'importance qui est la mienne et je ne peux pas valoriser suffisamment l'expérience pour lui donner son rôle ontologique, son rôle spirituel d'éveilleur. L'expérience est un éveilleur pour le moi. Donc, surmonter les pleurs et les lamentations, C'est ce qui fait qu'à terme, parce que je travaille la pleine conscience, il y a la disparition de la douleur physique et de la détresse mentale. Et ça, c'est aussi très intéressant, parce que la disparition de la douleur physique, ça ne veut pas forcément dire ne plus avoir mal. Les grands sages, comme Ramana Maharishi, avaient un cancer terminal et ils ne souffraient pas. Mais ce n'est pas que son corps n'avait pas mal, c'est que le pouvoir de la pleine conscience était tellement puissant, il était tellement, d'une certaine manière, dans le non-conditionné, qu'il pouvait lâcher le corps avec ses douleurs. Et c'est une expérience que nous pouvons faire dans l'assise, lorsque j'explore la souffrance physique, et c'est important de ne pas vouloir aller trop vite, c'est important de ne pas, disons, de faire sa part, mais de ne pas sauter depuis trop haut pour se casser la jambe, ou de ne pas monter 50 marches à la fois. Nous pouvons voir comment, avec la détente, la douleur physique, et en fait, en laissant être l'intensité de la douleur physique, en voyant « waouh, mais ça fait mal, c'est terrible ». Je me souviens, dans une de mes troisième retraite, j'avais tellement mal. Puis voilà que l'enseignant nous a dit « ben faites un effort héroïque. Pendant 7 heures d'assise ou 3 quarts d'heure, vous ne bougez pas. Ah ben, vous ne bougez pas. » Oh, c'était terrible, mais c'était trop terrible. Alors j'imaginais le Christ sur la croix, je me disais, il a supporté, tu peux peut-être supporter. J'avais tenu, mais je ne vous dis pas quand la cloche a sonné. Quelle libération. Mais c'est utile d'explorer comme ça la souffrance, parce que à terme, nous nous rendons compte que même la souffrance physique peut être... utiliser pour grandir. Dans une autre retraite, j'avais fait une expérience aussi tellement intéressante. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais de nouveau eu un truc au genou terrible. C'était venu très fort. Et j'avais vraiment vu comment, si je disais « Ah ouais, j'ai mal au genou, ça faisait une grosse boule, j'avais vraiment mal. » Puis si je disais « Attends, il y a plein de sensations dans le genou, je vais aller voir. » Ça se transformait complètement, ça faisait comme plein de petites lumières, de petites décharges, de petits... C'était génial. Et quand je renommais, attends, voir douleur, machin. Et la détresse mentale, c'est aussi dans ce travail de purification par le non-faire, ce qui nettement lâche. Parce que, avec la bienveillance à l'expérience, ici et maintenant, telle qu'elle est, la confiance grandit. Et il n'y a plus ce double message. « Ah, oh, j'ai peur, mon Dieu, j'ai peur. L'angoisse, oh, je suis tellement angoissée, je vais être angoissée. » Et ça, c'est terrible. Mais si je peux commencer à laisser être, ah ouais, juste maintenant, waouh, c'est désagréable. Oh, machin, truc, le machin. D'abord, je commence par le voir comme ça. Voilà, il a fait, il faudrait... C'est quoi? Je suis mal, quoi. Ah ouais, c'est l'angoisse. Est-ce que je peux le sentir dans le corps? Peut-être. Peut-être. Je peux en tout cas sentir où dans le corps il n'y a pas d'angoisse. Et alors j'ai un ancrage. Je ne suis plus totalement identifiée à l'expérience. Je ne suis plus totalement perdue. Je peux commencer à mettre ensemble l'expérience humaine qui, par définition, est enfer et paradis, et l'expérience du monde non conditionné qui, par définition, est tout incluante, équanime, objective, neutre, mais un neutre plein de bonté. Et pour que nous puissions ouvrir la pleine conscience à ces énergies douloureuses, c'est indispensable de construire l'outil de la concentration. Je pense que c'est ça qui fait que les gens ne continuent pas dans l'exercice de la méditation. Parce que ça demande du soin, ça demande du temps. Et si je veux un chemin rapide, où j'ai tout de suite des résultats, à moins que vous soyez particulièrement karmiquement plein de vies passées, où vous avez déjà fait un monstre travail, il faut un effort. Et il faut un effort, si vous faites un effort qui est trop violent, vous n'allez juste pas pouvoir continuer. Alors que si vous faites juste votre part, ok, j'ai adoré quand tu as dit 2%, j'ai été là 2%. Ok, j'ai été là 2%. Ah, ben j'ai été là. En fait, celui qui a été là 2% et celui qui a été là 100%, l'un n'a pas fait un meilleur travail que l'autre. Pour la pleine conscience, ça n'a aucune importance. Je suis venue m'asseoir. Et si je viens m'asseoir et que j'expérimente quelque chose qui n'est pas satisfaisant, mais que je continue à m'asseoir, eh bien, le facteur de l'éveil, de l'énergie, il est là. L'énergie, c'est ce qui fait que je viens gratuitement. C'est une énergie spirituelle. Je viens parce que, pour rien. La réalisation du chemin de vérité, du nirvana, peut-être, je ne sais pas si cette interprétation est tout à fait juste, mais ça, c'est peut-être le chemin de vérité, c'est celui qui est progressif. Nous sommes en chemin et je vois très bien comment j'ai pu construire, est l'outil de la concentration, est l'outil de la pleine conscience et comment je suis encore en train, nous sommes toujours en train de construire cette libération, cette purification et cette ouverture du Bouddha en nous. Et le nirvana, c'est peut-être juste maintenant. Donc le premier fondement, c'est de contempler le corps comme un corps. C'est-à-dire que je n'ai pas d'identification, je ne pense pas mon corps. J'essaye vraiment de le laisser faire. Il fait assez bien, hein? J'ai pas besoin de contrôler tellement ma respiration, de m'affoler tellement quand je commence à avoir mal aux genoux ou un peu de tension dans le dos. Je peux le recevoir tel qu'il est. Et le corps aime être reçu par la conscience. Nous l'employons, le corps, sans cesse. Nous lui demandons beaucoup de lui donner de temps en temps quelques heures pour « Ok, mon petit corps, tu peux être et je te reçois tel que tu es. » Et quand ça fait mal, je peux rester sensible. Je suis sensible, mon petit corps, tu as mal. Et quand il est bien, je peux être contente avec lui. « Waouh, là, t'es contente, t'es bien posée, t'es tranquille. » Contempler le corps comme un corps. Et après, le deuxième fondement, le Bouddha a parlé des ressentis comme étant de trois sortes. Ça, c'est simple, hein? Par rapport à la complexité du psychologique aujourd'hui, ouf! Agréable, désagréable et neutre. La totalité de l'angoisse, de l'obstination, de la parano, de agréable, désagréable ou neutre. Alors, ok, ça peut être très agréable. Je suis amoureux. « Oh, mais tu ne te rends pas compte que je suis amoureuse. » Ah, ça c'est très agréable, c'est d'accord. Je suis parano. Ah non, alors là c'est la parano totale. Oh, mais je suis parano, ils font tous peur. C'est très désagréable. L'enfer et le paradis, c'est ce que j'expérimente au niveau du ressenti. Et je contemple mes ressentis comme des ressentis. Parce que, au fond, tout au fond, il n'y a personne. Je ne devrais pas vous dire ça, peut-être au premier cours, il n'y a plus personne qui va revenir. Mais vous en faites pas, il n'y a personne, mais en même temps, ce personne est extrêmement précieux. Et c'est ça aussi qui se développe dans l'exercice de la méditation. C'est cette préciosité du moi. Ça ne veut pas dire qu'il est éternel, qu'il est immense. Il n'est pas très immense, hein, il est tout petit. Mais n'empêche, c'est moi qui crée le monde. Il y a cette préciosité du moi. Donc nous pouvons juste établir la conscience. Ah ouais, il y a des ressentis. Quand vous verrez votre amoureux là, ah tiens, il y a des ressentis. Quand vous verrez la personne qui vous fait le plus peur, votre boss qui a le pouvoir sur vous, qui peut vous flanquer dehors. Ouf, oh ouais, là, il y a des ressentis. Ou bien quand un de vos proches vous met en colère, quelque chose d'épouvantable. Ah ouais, tiens, il y a des ressentis. C'est simple. Et c'est vraiment possible de le faire si la pleine conscience acquiert son potentiel. C'est un potentiel de la nature humaine que nous pouvons développer. Et le troisième fondement, ce qu'on appelle citta, l'esprit, c'est au fond tout ce processus humain où nous avons un corps, nous avons des ressentis et nous construisons. Sur la base du corps qui vit des choses, du cœur qui ressent, il y a toutes ces constructions mentales qui fait que ah ben c'est la vie, quoi. Elle est belle, cette vie. Mais elle est aussi redoutable. Et avec l'exercice de la méditation, quelque chose fait que ce beau et redoutable de la vie est au lieu que avec l'aveuglement lié à la condition humaine, je crois vaguement que cette vie va pouvoir être belle toujours, à jamais. Je vois, ouais, bah des fois c'est beau et des fois c'est redoutable. Bah c'est ok. Et je suis libre. Et le quatrième fondement, bah c'est que c'est pas seulement comme ça pour moi, mais c'est comme ça pour tout le monde. Donc quand l'autre va venir avec ses ressentis terribles, ah ouais, c'est juste des ressentis. Et la compassion s'ouvre, le fait de pouvoir accueillir l'autre, de pouvoir accueillir le monde sans peur, ni avidité, ni désir qu'il soit autrement. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas ma part. Bien sûr, je fais ma part. Tout comme je fais ma part pour construire l'outil de la pleine conscience en moi, je fais ma part éthique pour que ce monde soit meilleur. Mais j'ai conscience d'être une fourmi. J'ai envie de redire la parole de Mère Teresa que je vous ai dit l'autre fois. Nous ne pouvons pas faire de grandes choses, mais nous pouvons faire de petites choses avec un grand amour. J'aimerais vous lire nous vivons. Vous savez que la psychologie a été créée il y a combien de temps, Jean, on dirait 100. Démocratisée.
William James. Démocratisée.
Enfin, 100 ans, c'est pas mal, 100 ans. Avant, il n'y avait pas de psychologie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de ressenti, hein, mais il n'y avait pas tellement de ces combinaisons. Ah ouais, je suis angoissée, je ne disais pas. Mais aujourd'hui, ça se dit beaucoup. Donc, je vais vous lire une parole de John Wellwood, qui a écrit un bouquin que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Amour parfait, relations imparfaites ». Alors, vous commencez à découvrir que la bête et la beauté vont main dans la main. La bête n'est en fait rien d'autre que votre beauté blessée. C'est la beauté qui a perdu confiance en elle-même, parce qu'elle n'a jamais été pleinement reconnue. Ne pas croire que nous sommes aimés est digne d'amour, a engendré les réactions émotionnelles les plus bestiales. Colère, arrogance, haine, jalousie, dépression, insécurité, avidité, convoitise, peur de perdre et d'être abandonné. La bête a un certain pouvoir, celui de dire non et de se fermer dans les défenses du moi. Elle nous coupe d'un pouvoir plus grand, c'est la capacité de dire oui. Comme la grâce du danseur s'exprime dans les mouvements, les sauts, la souplesse en lien avec la musique, notre beauté se révèle dans notre capacité à nous ouvrir à la réalité et à chevaucher tous les courants changeants de la vie. La bête blessée, c'est seulement la fermeture de cette merveilleuse faculté de grâce et de fluidité. Nous coupons le mouvement de la vie avec la pensée qui saisit l'expérience, qui la construit et qui la reconstruit. Mais si je suis dans la pleine conscience et que j'entends l'expérience, que je sens l'expérience émerger et passer et autre chose qui vient, alors il n'y a pas cette fermeture du moi sur moi. Il y a juste la danse de la vie avec ses 10 000 joies et ses 10 000 peines. Il y a juste ce monde conditionné qui est là. Quelquefois, c'est moi qui suis appelée à expérimenter ce qui est très douloureux, que ce soit moi toute seule ou en groupe, ce qui se passe en Syrie. Mais ça n'empêche pas la beauté d'être là. Ça n'empêche pas cette souplesse de la conscience à recevoir l'instant et à pouvoir le partager à l'autre. Ça ne l'empêche pas. Et nous avons déjà en nous absolument tout ce qu'il faut pour pouvoir développer cette compétence. Et cette compétence, elle ne demande qu'une chose, c'est un peu de concentration au départ. Et les choses se font. Les choses se font. Lorsque nous cultivons l'esprit, naturellement, la lumière s'installe. Je finis avec une petite histoire, je crois que c'est Confucius qui a écrit ça, je ne suis pas sûre. S'il y a la clarté dans le cœur, il y aura la beauté dans le caractère. S'il y a la beauté dans le caractère, il y aura l'harmonie dans nos foyers. S'il y a l'harmonie dans nos foyers, il y aura l'ordre dans les pays. S'il y a l'ordre dans les pays, il y aura la paix dans le monde. Tout commence avec la clarté dans le cœur.